Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui est absolument unique. Et elle vient toucher une peur qui sans doute a traversé la tête de toutes les mamans à la maternité. Pourvu qu'on n'ait pas échangé mon bébé contre un autre. C'est l'histoire, en vérité, du film « La vie est un long fleuve tranquille », mais en vrai. Et vous la connaissez peut-être d'ailleurs, cette histoire, un peu, puisqu'elle a été adaptée dans un téléfilm pour TF1. Mais c'est une histoire qui finalement se termine assez bien. Je le dis pour rassurer les gens qui vont écouter l'histoire qui semble très douloureuse d'un bout à l'autre. La voici, cette histoire. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazer, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1. Christophe Ondelatte.
Au départ, c'est une histoire très ordinaire. Un papa et une maman qui s'apprêtent à mettre au monde leur premier enfant dans une clinique de Cannes. Le papa s'appelle Davy, la maman Sophie, elle a 18 ans. On est dans la dernière ligne droite de l'accouchement. Les contractions deviennent de plus en plus intenses. La sage-femme vient de placer Sophie sous monitoring. Bien. Pour l'instant, votre col est ouvert de 3 cm. C'est pas assez, hein. Faut encore patienter. À tout à l'heure. Davy et Sophie restent donc en tête à tête, en amoureux. Bon. Je crois qu'on y est. On va vous transférer en salle d'accouchement. Péridurale. Poussez, poussez, poussez et... C'est une petite fille. Et elle a déjà un prénom, Manon. C'est Davy, le papa qui coupe le cordon. Ils sont heureux. Heureux. Retour dans la chambre avec Manon. Et la petite inquiétude.
Pourquoi elle a le visage de cette couleur?
Oh, c'est rien, c'est ce qu'on appelle un ictère, c'est une jaunisse si vous préférez. C'est assez courant, hein. Rien de grave. On va la placer sous des lampes, l'exposer à des rayons, et vous verrez, ça va aller. Bon, on se sent un peu dépossédé de son bébé quand il est sous la lampe, à la nurserie. Mais si c'est pour son bien... Le jour de la sortie approche, et on vient de ramener Manon dans la chambre après une séance de rayons. Et Sophie est un peu surprise. Elle trouve Manon différente. Différente du bébé qu'elle a laissé partir tout à l'heure. Elle a plus de cheveux. Ses cheveux ont l'air plus longs. Ça se peut, ça, qu'un nourrisson change si vite? Sophie, un peu gênée, appelle l'infirmière en se disant « Comment est-ce que je vais faire pour poser ce genre de questions sans paraître idiote ?»«
Oui ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Je me demandais... Pourquoi mon bébé a plus de cheveux que ce matin?
Il n'y a rien d'anormal.
Qu'est-ce que vous allez chercher? Ce sont sans doute les rayons qui ont fait pousser les cheveux. Ça peut arriver. Oh, Sophie se sent vraiment idiote d'avoir posé la question. Elle a raison, l'infirmière. Un bébé, ça change vite. Et puis arrive le jour de la sortie. Davy travaille, et donc c'est la maman de Sophie qui vient les chercher toutes les deux. Elle se penche sur le berceau.
Eh ben dis donc, Manon a bien changé.
Et là Sophie se dit, ah, je ne suis pas folle. Et voilà que sa mère ajoute,
il y a un problème, non? On dirait qu'ils se sont trompés de bébé.
Et là Sophie se dit que sa mère exagère. Alors elle lui donne les explications de l'infirmière, les rayons pour la jaunisse qui font pousser les cheveux. Et le trio grand-mère, mère, petite-fille quitte la clinique rassurée. Et après, retour à la maison. Et toutes les joies d'un premier enfant. Vous savez, ce moment où même les pleurs la nuit sont vécus comme un bonheur. Et puis un déménagement pour que Manon ait sa chambre. Et puis, ça arrive. Le père, Davy, devient un peu distant. Beaucoup de travail, une passion pour la moto... Sophie en vient à se demander si son couple va tenir. Les semaines passent, les mois. Manon grandit. Elle a maintenant les cheveux bouclés, Le teint mat, elle est magnifique. Mais les gens dans le village commencent à cancaner.
Elle ressemble pas trop à son père, cette petite fille, non ?
Sophie finit par entendre cette rumeur. Ça la blesse. Mais elle sait que Manon est la fille de Davy. Elle en est sûre, puisqu'elle ne l'a jamais trompée. Jamais ! Et parfois, ça la fait pleurer, Sophie. Tous ces cancans, là. Elle n'a pas fini de pleurer. À peu près au même moment, son entourage tente de lui faire passer un message. Davy, le père de Manon, aurait des maîtresses. Sophie est abasourdie, encore une rumeur. Mais pourquoi est-ce que les gens nous veulent tant de mal ? Et un jour, Davy lui-même évoque la rumeur.
« Comment t'as pu me faire ça, Sophie ?
Mais j'ai rien fait.
Je t'ai pas trompé, Davy.
Ah ouais ?
Alors pourquoi cette rumeur ? Il y a un petit fond de vérité, non ?
Mais je sais pas, moi. Ce sont des jaloux. Ils nous veulent du mal. »
Sophie est perdue. Et ses copines qui maintiennent que c'est lui qui la trompe.
Enfin, c'est un comble, Sophie. Il te reproche d'être infidèle, ce que tu n'es pas. Alors que lui...
Quelques temps plus tard, Sophie finit par se rendre à l'évidence. Effectivement, Davy la trompe. Il passe son temps au téléphone avec une autre fille. Et un jour, elle affronte Davy. Et l'autre crache le morceau.
Bah oui. Ouais, je te trompe. Et pas qu'avec une fille.
Mais comment il a pu me faire ça ? Comment il a pu nous faire ça ? Sophie est sonnée. Et elle prend la décision de quitter Davy. C'est pas facile, il dit qu'il l'aime. Elle est tentée de lui pardonner, mais non. Elle prend Manon sous son bras et elle va s'installer chez une copine. Et dans le village, forcément, ça attise les rumeurs. Il l'a quittée parce que la petite n'est pas sa fille. Les gens sont redoutables. Le temps passe, et à peu près un an et demi plus tard, Sophie rencontre Joe. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, même si elle donne naissance à un deuxième enfant, Laura. Car Joe boit, et quand il a bu, il devient méchant. Et donc Sophie finit par le quitter, elle n'a pas de chance avec les mecs. Et comme les emmerdements volent en escadrille, sa maman tombe malade, un cancer, et elle en meurt, chienne de vie. Sophie déménage, à nouveau, avec ses deux petites filles, Manon et Laura, dans une jolie maison, dans un joli village. Et là, elle rencontre un nouveau garçon, Olivier, 17 ans. À ce moment-là, elle en a 27, 10 de plus. Mais ça ne l'empêche pas d'être mature, Olivier, et de s'occuper très bien des deux petites filles. Et c'est donc avec Olivier qu'elle va affronter une épreuve terrible. Pendant toutes ces années, Davy, le père de Manon, s'est petit à petit désintéressé de sa fille. Au début, il la voyait un peu, et puis de moins en moins, et puis finalement plus du tout. Et un jour, début 2002, Manon a donc 7 ans et demi, Sophie reçoit une lettre du tribunal. Davy conteste sa paternité. Il exige un test ADN sur Manon. Elle l'appelle tout de suite.
Davy ? Je viens de recevoir ta demande de test ADN. Mais pourquoi tu fais ça ?
Écoute, si je suis pas le père de Manon, ben j'aurai plus à te payer de pension alimentaire, voilà tout.
Sophie est abasourdie. Et en même temps, elle se dit qu'elle va pouvoir lui prouver qu'elle ne l'a pas trompé. Mais maintenant, il faut aussi expliquer ça à Manon. Manon qui demande déjà régulièrement.
Pourquoi il veut pas me voir, mon papa ?
Et donc un jour, elle lui explique. C'est pas facile.
Ma chérie, ton papa, il pense que t'es pas sa vraie fille. C'est pour ça qu'il s'occupe pas de toi. Mais il se trompe. T'es sa fille. Alors il demande une prise de sang pour savoir s'il est ton papa. Ben, c'est le moyen de lui prouver qu'il se trompe, non ? Et puis j'espère qu'ensuite il s'occupera de toi.
Waouh ! C'est rude. Et le problème, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite. Il va s'écouler un an et demi jusqu'à l'arrivée au printemps 2003 d'une convocation pour une prise de sang à l'hôpital de Nice. Et le jour J, Davy est là, dans la même pièce. Manon ne le reconnaît pas. Il est là parce que pour comparer, on va prendre l'ADN de tout le monde. Le père, la mère, l'enfant.
Voilà. Eh bien écoutez, je pense que nous aurons les résultats, je dirais d'ici un mois.
Un mois plus tard, Sophie reçoit une convocation pour une deuxième prise de sang. Elle se demande pourquoi.
Disons que vous avez un sang rare, hein? Et les résultats doivent être envoyés à Paris.
Bon, Sophie reste tout de même dans l'idée que tout ça, ça n'est pas clair. Et puis là-dessus arrive un troisième enfant, un garçon, Michael, dont le papa est Olivier, bien sûr. Et le temps passe. Aucune nouvelle des tests ADN. Un mois, deux mois, trois mois, Noël arrive, toujours rien. L'attente dure un an. Un an d'angoisse, en vérité. Elle y pense tout le temps. Et en mai 2004, arrive une lettre de son avocate. Elle veut la voir. Elle a les résultats. Ouf ! Elle ne dit rien à Manon, qui maintenant a presque 10 ans. Elle va au rendez-vous sans elle. Quand Sophie arrive chez son avocate, elle la trouve bizarre, tendue.
Bonjour. Asseyez-vous.
Bien. Je ne vais pas tourner autour du pot. Davy n'est pas le père de Manon.
Mais c'est pas possible! Mais Sophie ne dit rien.
J'ai autre chose à vous dire. Vous n'êtes pas non plus sa mère.
Pardon? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? J'ai mal compris?
Elle n'a pas mal compris. L'avocate continue de parler, mais elle n'entend plus rien. Elle est comme dans un halo de coton. C'est irréel, c'est un cauchemar. Et ça dure plusieurs minutes. Et après, ça va vite. Si Manon n'est pas ma fille, c'est que mon véritable enfant est quelque part. Et Manon, c'est qu'elle a d'autres parents. Ils vont vouloir la reprendre. Et là, quand son avocate le lui dit, Sophie repense à l'épisode des cheveux à la naissance. Et ça lui vient comme une évidence. On a échangé deux bébés à la clinique.
Mais comment est-ce que je peux retrouver ma fille, qui doit donc avoir, 10 ans maintenant?
Je suggère de déposer une plainte pour substitution d'enfant, qui donc donnera lieu à une enquête pour découvrir comment une telle chose a pu arriver.
D'accord.
Je préfère vous prévenir. Ça va être compliqué. Et j'ai regardé, il n'y a pas de précédent, donc il n'y a pas de jurisprudence.
Sophie met 3 semaines avant d'en parler à Manon. 10 ans. Vous vous rendez compte?
Ma petite chérie, j'ai reçu les résultats des tests ADN. J'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Et que quoi qu'il arrive, ça changera jamais. Les tests disent que ton papa n'est pas ton papa. Et que moi non plus, je suis pas ta vraie maman.
Sophie prend Manon dans ses bras.
Quand tu es née, ma chérie, à la clinique, on t'a échangé avec un autre bébé. Ça veut dire que j'ai d'autres parents? Ils vont vouloir me reprendre? J'ai peur, maman. Je veux pas qu'on nous sépare. C'est toi, ma maman. Non. Tu entends bien. Rien. ni personne ne pourra nous séparer. Rien, ma chérie. Je serai toujours là pour te protéger.
La vie n'était plus la même. Ce coup de bâton que je venais de recevoir m'avait complètement assommé. Je n'avais plus aucune motivation. Mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs. Je ne voulais pas qu'on m'enlève Manon. Je l'avais bercée, nourrie, élevée, aimée comme ma fille. Mais il y avait cet enfant, inconnu, qui hantait mes pensées. Je voulais la connaître, je voulais la voir, la toucher, lui parler. J'étais persuadé qu'elle devait me ressembler. Sophie porte plainte. Elle y va seule, sans Manon. Et les gendarmes lui font raconter la clinique, les cheveux. Et elle en veut beaucoup à Davy, beaucoup. De ces tests, de ces foutus tests qui ont tout fichu par terre. Elle lui en veut, et quand elle se retrouve avec lui à la gendarmerie, elle le lui dit.
« Davy, tu es un monstre ! Tu es un monstre ! T'es inhumain, t'es égoïste, mais t'as pas honte de ce que tu viens de faire à une petite fille innocente ? Mais comment t'oses te regarder dans une glace, Davy ? Comment ?»
Lui, il en conclut que ça n'est plus son affaire. Voilà. Et donc il ne paiera plus de pension alimentaire. Deux mois plus tard, coup de fil.
Allô ? Bonjour. Ici la gendarmerie de Cannes. Je vous contacte concernant l'affaire de votre fille. Nous avons peut-être retrouvé l'autre famille. Il n'y a rien de concret, hein ? Mais disons que nous avons des suppositions assez fortes.
Elle est contente. Objectivement, elle est contente. Mais quel saut dans l'inconnu.
Et alors, on a des photos de votre petite fille. Vous pouvez venir les voir ?
Oui. Oui, bien sûr.
Elle arrive à la gendarmerie de Cannes.
Bonjour, madame. Je vous en prie, asseyez-vous.
Et on lui tend une photo. Elle la regarde. Une petite fille, souriante, à la chevelure brune. Elle lui ressemble, beaucoup. Et elle ressemble aussi beaucoup à Davy. Ils se sont retrouvés.
Comment se prénomme-t-elle ?
Elle s'appelle Mathilde. Et bien entendu, nous allons contacter l'autre famille. Et nous allons leur montrer une photo de Manon. Et leur demander de pratiquer des tests ADN.
Quelque temps plus tard, Sophie est à nouveau à la gendarmerie et elle la voit, de loin, la mère biologique de Manon. Elle la voit, brune, les cheveux bruns, frisés. Mon Dieu que c'est troublant. Elle s'approche, l'autre l'aperçoit. Pas besoin de faire les présentations. Elles se tombent dans les bras l'une de l'autre, en larmes, et elles s'échangent leur numéro de téléphone. Et là, elles se mettent à s'appeler, à parler, 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 pendant des heures, à se raconter la vie de l'autre enfant. Là-dessus tombent les résultats des tests ADN. Ils sont bien les parents biologiques de Manon. Et ça aussi, il faut le dire à Manon, qui jusqu'ici les considérait comme des étrangers. Elle se sent en danger, la pauvre. Et Sophie fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer.
Tu sais, ma chérie, je pense que cette dame, elle pourra que t'aimer. Elle te fera pas souffrir, tu sais. C'est normal qu'elle t'aime. Moi aussi, tu sais, j'ai envie de la connaître, l'autre petite. C'est normal qu'elle ait envie de te connaître. Mais tu entends, rien, rien ne nous séparera. Jamais.
Un jour au téléphone.
Sophie ? Vous voulez que je vous passe Mathilde ? Elle est là, à côté de moi.
Sophie lui parle. Et à l'autre bout, Mathilde a l'air contente. Et maintenant,
Faut bien se voir. Un matin, Sophie et Manon prennent la voiture et elles arrivent chez les autres. Sophie entre et son regard tombe sur Mathilde, sa fille. C'est elle qui fait le premier pas, ses yeux pétillent. Elle est contente, la gamine. Sophie la prend dans ses bras, c'est une évidence. Elle l'aime. Et Manon est à côté, elle n'a pas bougé. Pas bougé. Avec ses parents biologiques, disons que c'est moins facile. C'est moins évident. Et après, ils vont tous s'asseoir dans le salon. Et ils se parlent. C'est surréaliste en vérité. C'est une scène surréaliste. Les parents se sont mis d'accord avant. On ne posera pas de questions directement à son enfant. On passe par les autres parents. Pour parler de l'enfance, de leurs premiers pas, des copines, Sophie ne pose pas directement de questions à Mathilde. Pour que les choses soient bien claires au fond, Manon restera avec Sophie et Mathilde avec ceux qui l'ont vu grandir. On ne touchera pas à ça. Ça n'empêchera pas de lui faire un cadeau à Noël. Et même d'aller passer des week-ends chez l'un, chez l'autre. Et même que Sophie apprenne à Mathilde à monter à cheval. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais Sophie ne vit pas de la Providence. Elle a un petit centre équestre. Et le plus miraculeux, c'est que les deux petites filles s'entendent bien. Elles jouent ensemble. Elles rigolent. C'est un miracle. Vous y croyez, au miracle? Au début, ça se passe bien. Mais assez vite, ça se gâte. Sophie le voit tout de suite. L'autre famille est en train de prendre ses distances. Et elle voit de moins en moins Mathilde. Et lentement, elle plonge dans ce qu'il faut bien appeler une dépression. Une énorme dépression. Dont la première conséquence est que son couple vole en éclats. Encore une fois, elle se sépare d'Olivier. Et selon la loi de l'emmerdement maximum, comme elle n'est pas bien, elle travaille moins. Et donc elle commence à avoir des problèmes d'argent. Elle doit quitter sa jolie maison, ses chevaux, pour un HLM en pleine montagne. À part ça, l'enquête avance, lentement. On commence à savoir ce qui s'est passé à la clinique. L'échange des bébés pourrait venir d'une auxiliaire de puériculture qui avait des problèmes, qui buvait. Interrogée par les gendarmes, elle leur a dit « Ah mais considérant l'état dans lequel j'étais, oui, ça a très bien pu arriver. » Comme il n'y avait pas assez de lampes, elle a mis les deux bébés dans le même berceau, sans bracelet d'identité. À un moment, devant la lenteur de la justice et contre l'avis de son avocat, Sophie décide de médiatiser son histoire. Elle se sent abandonnée. Elle a besoin du soutien de l'opinion.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. L'incroyable histoire à Cannes d'une mère qui a finalement appris que son bébé avait été échangé à la maternité. Les faits remontent à 14 ans. Elle réclame réparation.
Juillet 94, Sophie Serrano accouche pour la première fois à Cannes. Mais son bébé a la jaunisse. Pour être soigné, il est momentanément séparé de sa mère. Elle le récupère quelques jours plus tard.
J'ai vu une différence. Elle avait plus de cheveux.
Mais ça ne sert finalement à pas grand-chose. Et Sophie continue de s'enfoncer dans la dépression. Et elle finit par échouer dans une clinique psychiatrique. Heureusement qu'elle a trouvé un bon copain pour s'occuper des enfants. Et Manon? Manon grandit avec ses tourments. C'est pas facile. Elle devient agressive au collège. Mais heureusement, elle parle. Elle parle de tout, toutes les deux. La relation mère-fille est absolument intacte. Et là, je suis contraint de faire un saut dans le temps. Un grand saut. Parce que la justice n'avance pas au rythme des humains, ni de leurs états d'âme. Le procès de cette affaire se tient en 2014. Vous vous rendez compte, Manon a 20 ans et cette histoire terrible lui est tombée dessus quand elle avait 8 ans. Et elle a dû attendre 12 longues années. Le procès se tient à huis clos. Une horde de journalistes attend à l'extérieur. Pour se défendre, Sophie a choisi maître Gilbert Collard. Et tant pis s'il est au Front National, au moins il se bat pour elle. Il réclame 12 millions d'euros de dommages et intérêts à la clinique. Et il faut encore attendre 2 mois pour connaître le jugement, par un coup de fil de Collard.
Allô, Sophie ? Nous avons gagné !
Elle n'a pas obtenu 12 millions, bien sûr. Mais au total, pour les deux familles, 1,8 million à se partager. Chère maman, je t'écris cette lettre pour te faire part de mon amour et de mon admiration. J'admire toute cette force que tu n'as cessé de montrer devant ce long combat. Toute ma vie, tu as toujours été là. Même quand le monde s'est écroulé, tu n'as rien changé à mon égard. Tu m'as aimé encore plus fort. On s'est battus toutes les deux. Tu as tout donné pour qu'on s'en sorte et que je sois plus forte. J'ai 21 ans. Grâce à toi, je suis une femme solide et souriante. Tu peux te reposer, maman, et penser à toi. Ta petite fille chérie a bien grandi. Ta fille, Manon. Post-scriptum. Je t'aime, maman.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.